Un été avec Bernstein, Emmanuel Franc, France Musique.
Bonjour à tous.
Ist es wirklich alles, was ihr herausbringt hat? Freude!
Aujourd'hui, le duel Bernstein-Karajan.
Da darf niemand rühren!
Je n'oserais jamais dire le duel Leni Berti.
Zusammen. You have to connect. Let's do only violins. One. And. No, no. The ha has to be together. The B natural. One. And. All right. Get your note before you play. Again. That's better. Okay. Now let's do it in the tempo.
La rivalité entre Bernstein et Karajan s'est jouée presque malgré eux. Non seulement ils sont l'exact reflet des antagonismes de leur époque, mais tout, depuis leur naissance, les a opposés personnellement. Et la légende, voire la presse, en a rajouté. Qu'en est-il réellement? C'est le sujet de ce numéro 2, Un été avec Leni. Deux petites citations pour commencer. Karajan. Vous savez, si vous avez la moindre incertitude avec un orchestre, s'il commence à faire n'importe quoi, il y a deux solutions où la dictature est nécessaire. L'armée et la musique. Bernstein. Le chef ne doit pas seulement faire jouer son orchestre. Il faut qu'il lui donne envie de jouer. Il s'agit moins d'imposer sa volonté comme un dictateur que de projeter ses émotions autour de lui afin qu'elles puissent atteindre le plus éloigné des seconds violons. Et quand cela arrive, quand 100 personnes partagent leurs émotions exactement simultanément, réagissant à chaque respiration de la musique, à chaque point d'arrivée et de départ, à son moindre frémissement intérieur, alors, il existe une identité d'émotion qui n'a d'équivalent nulle part. C'est à ma connaissance la chose qui se rapproche le plus de l'amour lui-même. Alors, duo ou duel? Christa Ludwig résume la différence entre Leni et Karajan.
C'est la différence. Karajan a dirigé la musique et Bernstein, il était la musique. Et parce qu'il comprenait aussi les compositions, parce qu'il était compositeur et Karajan n'était pas un compositeur.
Et Seiji Ozawa aussi.
Pour moi, il possédait une gestuelle, un style totalement différent. Mais je pense qu'en eux-mêmes, ils étaient pareils, à l'intérieur de la musique. Si vous écoutez en fermant les yeux, je pense que vous verrez presque des ressemblances.
Thank you.
des enfances prodiges des différences et des ressemblances. Des différences, car Ryan a 10 ans de plus que Lynn. Si le petit Herbert naît dans une famille de mélomanes à Salzbourg, où il a pu absorber tout le répertoire dès la création du fameux festival de sa ville, nous savons que les parents de Lenny n'avaient pas la moindre idée de ce qu'était l'univers de la musique. En revanche, leur adolescence est comparable. Tous deux sont des amoureux du piano et ont des pères pour qui être musicien n'est pas un avenir. Autre point commun. Ils bénéficient du même enseignement européen. Rappelez-vous, Lenny n'a eu que des professeurs allemands, hongrois ou russes. Mais curieusement, c'est Lenny qui a eu la formation la plus traditionnelle. Il est l'assistant de Mitropoulos, Koussevitzky et Rodzinski, avant de commencer à diriger. Un cursus classique. Karajan a grillé toutes les étapes en prenant à 21 ans la direction du tout petit opéra d'Ulm. Et puis déjà très jeunes, ils sont parfaitement dissemblables. Karajan se lève à 4 heures du matin pour apprendre les partitions, il ne boit pas, ne fume pas et fait du sport. Lenny se couche à 4 heures du matin après avoir passé la nuit à jouer des boogie-woogie, clope au bec et whisky sur le piano. Et sans nuance, je pourrais presque titrer ce chapitre « Le juif et le nazi ». C'est un peu grossier. Nous savons bien que Lenny est né d'une famille pratiquante et lui-même a maintenu toute sa vie l'étude des textes religieux. Là est évidemment la ligne de fracture entre les deux jeunes hommes. L'historien Oliver Haskolb a exploré les archives de l'orchestre de Vienne et a étudié l'histoire de Karajan.
D'un pur point de vue idéologique, il se considérait d'abord comme allemand parce que c'était un sentiment qui prédominait en Autriche. À cette époque, l'Allemagne était le centre de la culture. Pour beaucoup d'Autrichiens, même chez ceux qui n'étaient pas affiliés au nazisme.
Étudiant à Harvard, Lenny s'est fait des amis qui l'ont aidé parce qu'ils ont cru en son talent.
Herbert von Karajan, already when he went to school in Salzburg, was very closely affiliated to fraternities.
Karajan, étudiant à Salzbourg, était proche de fraternités pan-germaniques qui reflétaient les remarques clairement antisémites de ses parents qui venaient de Vienne entre les années 20 et 30.
Et que ce soit pour sa nomination à Ulm puis à Aix-la-Chapelle, l'adhésion de Karajan au parti nazi a clairement joué un rôle.
En 1933, alors que le parti nazi était déjà très actif en Autriche parce que Hitler était arrivé au pouvoir en Allemagne, il avait déjà adhéré très tôt au parti à Salzbourg. Il était alors devenu un membre numéroté. Mais alors, il est allé en Allemagne quand il a obtenu ses postes à Ulm, puis à Aix-la-Chapelle. Alors, il a adhéré à nouveau au parti nazi. Cela sema la confusion au sein de l'administration nazie, parce que soudainement, en 1935, à Aix, ils réalisèrent qu'il avait adhéré deux fois.
Dans les années 80, un journaliste prudent tente d'interviewer Karajan sur son passé. « Pendant la guerre, vous étiez alors à Berlin et là, par contrainte, précise-t-il bien, vous avez été en relation avec les nazis les plus importants. »
Comment pouvez-vous dire cela? J'ai peut-être parlé à Hitler 3 minutes.
Christa Ludwig donne une autre explication, une raison plus opportuniste.
Si on voulait un engagement, vraiment un très bon engagement, on devrait être dans le parti. C'est normal. C'était comme ça. Alors, autrement, oh non.
On peut seulement réussir vraiment si on réussit très bien, autrement pas. Il avait 27 ans. Il était le plus jeune général musikdirektor de l'Allemagne, non? C'était formidable. Et après, il était naturellement tout de suite à Berlin.
Tous deux ont un concert inaugural. Dans la foulée de sa nomination à Aix, Karajan fait un triomphe avec un Fidelio à l'Opéra de Berlin. La presse, quelque peu sous contrôle, parle du miracle Karajan et va même jusqu'à admonester le chef en titre Furtwängler de prendre des leçons du jeune prodige. Rappelons-nous maintenant le fameux concert de Leni en 1943 lorsqu'il remplace Bruno Walter malade. Quoi qu'il en soit, ils ont chacun une sorte de concert phare qui les hisse aux premières places d'un pas de géant. Karajan, adoubé par le pouvoir, court ainsi de succès en succès jusqu'à une représentation catastrophique devant Hitler.
On m'a reproché de diriger par cœur. Et là, je crois que le ministre Goebbels a dit « Dorénavant, il faudra qu'il dirige avec la partition sous les yeux » et cela n'a pas joué en ma faveur.
Grand concert symphonique donné au Palais de Chaillot sous la direction de M. Herbert von Karajan.
À la fin de la guerre, il fuit en Italie. Mais s'il veut redevenir chef, il n'a d'autre choix que de rentrer à Vienne pour passer en commission de dénazification. Karajan vit son interdiction de diriger pendant 2 ans, comme une injustice. Ces années-là, Leni a écrit Jérémia en hommage à son peuple. Il a participé à des mouvements antifascistes et dès 1947, il a noué des liens pour la vie avec l'orchestre qui prendra bientôt le nom de Philharmonique d'Israël. Et puis en 1945, il a composé pour la synagogue de Park Avenue, Ashkivenu, pour ténor, chœur et orgue.
Sure.
Après la guerre, commence entre Lenny et Karajan une sorte de Yalta musical. Lenny va devoir se replier sur des concerts aux États-Unis quand la commission des affaires anti-américaines s'intéresse à lui et qu'on lui retire son passeport. Ces années-là, il construit son activité musicale hors norme en composant le ballet Fancy Free, On the Town et Facsimile, pendant que Karajan va reconquérir sa gloire. 1946, l'agent anglais Walter Legg écume Vienne à la recherche d'un chef d'orchestre pour sa nouvelle formation, le London Philharmonia Orchestra. Il veut enregistrer des disques. Karajan, interdit de concert, peut enregistrer. Plus de toux intempestive, plus de chuchotements, rien que la musique. En 10 ans, ils feront 150 disques. Lenny, quant à lui, affirme « Un enregistrement en public n'a rien à voir avec une interprétation en studio immaculée qu'on assemble comme un puzzle. » Chacun a bientôt son orchestre. En 1954, Karajan prend la direction du Philharmonique de Berlin et il a exigé un contrat à vie. 1956 et définitivement 1958, de son côté, Lenny prend la direction du New York Philharmonic. Cette fois, les deux chefs sont à égalité. Christelle Ludwig compare leur façon de se comporter sur le podium. Elle commence par Lenny.
Il a transpiré, il est sauté, il était très libre au pupitre. Et Karajan était toujours très distingué, yeah, avec les yeux fermés et tout ça. C'était la musique, c'était une chose sacrée. Hein. Et pour Bernstein, c'était la musique. Je ne crois pas sacré, mais c'était une expression de la joie.
Symphonie numéro 8 de Schubert par Leonard Bernstein. Et maintenant par Karajan. Seiji Ozawa a vécu l'expérience d'avoir à choisir entre les deux chefs. Un choix cornélien. Il est l'assistant de Karajan à Berlin quand Lenny le demande à New York.
Alors, je suis allé voir Maestro Karajan pour lui dire « J'ai reçu une invitation pour être l'assistant de Lenny Bernstein. Que dois-je faire ?» Et il m'a dit « Va, va Seiji et reviens. » J'y suis allé, je pense, un an, et Bernstein s'est mis en off. Du coup, ils avaient besoin de quelqu'un, donc je suis resté 2 ans de plus. Mais après, je suis retourné voir le maestro, et à partir de là, il m'a toujours pris comme élève jusqu'à sa mort. C'étaient deux très grands chefs. Et ils se respectaient l'un l'autre. Lenny n'a jamais rien dit de désagréable envers Karajan, et Karajan jamais non plus sur Bernstein. Peut-être des plaisanteries. C'est un chef américain, vous voyez ce genre de blague.
Hier, je vous ai fait écouter les commentaires de Seiji Ozawa sur l'interprétation de la symphonie numéro 4 de Brahms par Lenny. Il soulignait à quel point la musique respirait avec son chef. « On entend son souffle, disait-il. » Et de la version de Karajan, qu'en dit-il ?«
Vous voyez, c'est ce morceau bien connu de Brahms. À la fin de cette note, c'est comme si elle ne s'arrêtait pas. »
Vous
voyez, c'est vraiment ça, Karajan. C'est la ligne Karajan.
Karajan line. Doesn't stop.
Pas d'arrêt. L'orchestre la joue. Vous savez, vous comprenez, il a un silence, une noire, mais certains la jouent. Ils non pas insistent, mais il invite à ce que ce soit ainsi. Il est génial pour ça. Maestro von Karajan. On a un très bon exemple de cela ici.
Jamie, la fille de Lenny. And there were not that many conductors in the world with whom my father felt on an even footing. There were only a handful. Il n'y avait pas beaucoup de chefs au monde avec qui mon père se sentait sur le même pied. Il n'y avait qu'une poignée de chefs à ce niveau de compétence, d'excellence et de musicalité. Et mon père savait très bien que lui et Karajan étaient au même niveau. And my father knew very well that von Karajan was at that level. Mais je pense que s'il y avait compétition, pour mon père, c'était à un niveau d'égalité, et ils étaient dans l'esprit d'être égaux. Vous voulez dire que Karajan pensait la même chose ? Je n'en suis pas sûre. Je ne sais pas ce que Karajan pensait de Bernstein, je ne sais vraiment pas. D'un autre côté, Karajan était ce magnifique chef, et mon père était aussi un magnifique chef. Mais il était beaucoup d'autres choses aussi. Il était compositeur, c'était un compositeur de symphonie et de comédie musicale, d'opéra et de ballet. Et il était un écrivain et un homme de télé, c'était un professeur extraordinaire. Il avait beaucoup de casquettes. Donc, pour autant que mon père se soit senti en compétition, ça ne concernait qu'une partie de sa vie.
Un été avec Bernstein.
Summer with Lenny. Emmanuel Franc. France Musique.
Un jour, ils se sont bien évidemment rencontrés. C'était à la Scala. De cet événement, Lenny en a fait le récit à la soprane Birgit Nilsson, alors qu'ils prenaient l'avion ensemble. L'histoire se passe en 1954, lorsque Bernstein vient à Milan pour faire les reprises de Médée et que Karajan est également là pour un Carmen. Lenny trouvait la direction de Karajan en dessous de toute critique et plutôt que d'aller en coulisses pour saluer le maestro comme il se doit dans le métier, il est allé directement au buffet de la Scala. Un peu après, Karajan arrive avec son bras droit Mattoni. Karajan est venu directement vers Lenny, qu'il découvrait quasiment en flagrant délit d'impolitesse, et il s'est présenté lui-même. Pour éviter de parler de la malheureuse Carmen, Bernstein a demandé à Karajan où il passait son temps libre à Milan. « Eh bien, je vais skier dans les Alpes, et je vous le recommande », lui a répondu Karajan. Bernstein ne se montra pas intéressé et lui dit que de toute façon, il n'avait pas d'équipement. À 3h du matin, quelqu'un frappa à la porte de sa chambre, à l'hôtel Duomo, où ils étaient tous les deux domiciliés. Et là, se tenait Karajan, les bras chargés de tout un équipement de ski qu'il se proposait de prêter à Bernstein. Lenny fut très touché par cette offre amicale et mit de côté tout son ressentiment de juif envers les nazis. Ils passèrent toute la nuit à discuter. Bernstein a demandé à Karajan pourquoi il n'avait jamais conduit aux États-Unis. Et Karajan a répondu tout à fait franchement qu'à cause de son passé politique, personne ne le réclamait. Bernstein dit à Karajan que la guerre était finie et que le public avait tout oublié. Ils ont convenu que Bernstein examinerait toutes les possibilités de contact pour Karajan. Quelques jours après, Lenny écrit à Félicia, le 7 janvier 54, du Palace Hôtel de Saint-Maurice en Suisse, où il se repose 2 jours. « Et nous devenons réellement de bons amis avec Karajan, que tu adorerais, que tu adoreras, mon premier nazi. » Mais Lenny tint parole quant à la venue de Karajan à New York.
I'm happy to come to the United States and bring the orchestra to Berlin Philharmonic.
Mais lors de la tournée, il est sifflé. Des pigeons sont lâchés dans la salle ou bien elle est vide parce que les associations juives ont acheté tous les billets. Le concert à New York s'est achevé sous des huées frénétiques et Karajan a refusé de recevoir Bernstein, venu le consoler dans sa loge en lui claquant la porte au nez. Que Lenny a pris la direction du Philharmonique de New York, une de ses premières tâches a consisté à rédiger la liste des chefs invités. Il a immédiatement inscrit Karajan. et celui-ci s'est empressé d'accepter puisqu'en novembre 58, il dirige Mozart, Strauss, Beethoven et Webern avec le Philharmonique de New York. Concert enregistré par la radio. En revanche, n'invitera jamais Leni à diriger le Philharmonique de Berlin. La seule et mémorable fois où Leni a dirigé l'orchestre de Karajan, c'est à l'invitation de l'orchestre lui-même. Il s'agissait d'un concert pour soutenir Amnesty International, à propos duquel Karajan n'avait pas son avis à donner. Ils ont joué ensemble une des plus merveilleuses versions de la 9e symphonie de Mahler. Voilà maintenant un chapitre qu'on pourrait nommer « West Side Story ». Pendant que Leni écrit « West Side Story », la comédie musicale qui va exploser toutes les frontières, Karajan met en place sa machine de guerre. Une fois qu'il a obtenu le Philharmonique de Berlin, il prend le contrôle du Festival d'été de Salzbourg, sa ville natale. Et alors qu'il dirige déjà la Scala de Milan, il prend d'assaut l'Opéra de Vienne. Là, il s'octroie le rôle de metteur en scène en plus de la direction de l'orchestre. C'est un coup de maître. En un an, il dirige toutes les places stratégiques de la musique allemande.
Il était dans un taxi à Vienne et le taxi-chauffeur, il demande « Mais où vous voulez aller ?» Elle dit « C'est égal, j'ai affaire partout. » C'est vrai. Et je crois qu'elle a aimé pouvoir et nous avons toujours dit « C'est bien, il ne dirige pas un pays. »
Mais il est un art de la direction où Lénine n'arrive pas à égaler Karajan, nous dit Christa.
Avec Karajan, on ne pouvait pas avoir une humanité très chaude. Non. Il était un petit peu distancé, mais très gentil aussi. Mais avec Bernstein, il a embrassé tout le monde, c'est ça. Et aussi, tant de baisers pour tout le monde. Alors, ça a été de la différence. Yeah. Et Karajan, il a aimé la voix et il pouvait aider aussi si on avait des difficultés, par exemple. Un jour, on n'est pas en très bonne voix ou on n'a pas de respiration, quelque chose. Il pouvait aider avec le tempo, Bernstein là. Il a aimé la voix, mais il n'a rien compris d'une voix, rien. Il a aimé la voix, mais, mais il n'a rien compris. Et on doit toujours dire, s'il vous plaît, aidez-moi là. Et il était très... étonné, on ne peut pas, ou quoi. Alors, c'était différent. Mais le travail était avec tous les deux fantastique. Oui.
Autant Lénine a toujours été un fabuleux pédagogue et l'a prouvé toute sa vie, autant Karajan n'a jamais été un enseignant, bien que ceux qui ont bénéficié d'une de ses rares masterclass l'aient loué. Quand Lénine et Karajan s'emparent de la télévision, ils sont tous les deux premiers et ont le même but, démocratiser la musique classique. Mais ils s'opposent sur la méthode pour y parvenir. Karajan pense en termes d'audience et Lénine de pédagogie. Nous savons à quel point les Young People Concerts sont un programme révolutionnaire. Karajan, de son côté, veut garder la trace des symphonies telles qu'il les dirige avec l'orchestre de Berlin, comme s'il était le garant de la tradition allemande. Pour cela, il déploie un arsenal hollywoodien et réalise des captations de concerts où les plans sur le chef sont plus nombreux qu'il n'est raisonnable.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
Mais Karajan et Lenny ont aussi en commun d'offrir un nouveau profil de chef moderne. Comme s'il voulait contredire l'image réactionnaire et bourgeoise de l'univers de la musique classique. Dans les années 70, on peut dire qu'ils sont des rock stars.
In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side.
Le playboy Karajan, marié à un mannequin de chez Dior, pilote son propre jet, son yacht et ses bolides. Et Lenny, l'iconoclaste, père de famille et gay, toujours prêt à soutenir les causes humanitaires, incarne le romantisme peace and love de l'époque. Tous deux sont des séducteurs hors normes, des hommes comme des femmes. Karajan voulait ressembler aux photos qu'il acceptait de lui, parfait, inatteignable, inabordable. Lenny, lui, ne peut sortir dans la rue sans qu'on l'apostrophe. Ozawa à propos de Karajan.
Maestro was I disagree. Some people say he's very cold.
Mais Maestro était gentil. Les gens le pensaient froid. Il l'était parce qu'il était difficile à rencontrer. Voir Maestro Karajan était vraiment difficile. Pour moi, j'ai fini par savoir comment le rencontrer. Quand j'avais vraiment besoin de le voir, j'allais l'attendre dans sa voiture ou je l'attendais dans sa loge, sinon il filait.
Christa Ludwig, à propos de Lenny.
J'étais avec lui à un aéroport Amérique et j'étais avec lui dans le grand hall de l'aéroport et une petite femme âgée crie de loin « Lenny !» Lenny a embrassé la dame, a demandé comment elle va et tout ça. Après, j'ai demandé, vous connaissez ça? Ah non. Mais c'est ça, il aimait les gens, il était un humanitaire, il était différent. Et je crois, Karajan, il était très timide.
Bien sûr, entre eux, il y eut Vienne, la place forte de la musique européenne. Karajan quitte l'orchestre et l'opéra en 64 et Lenny devient l'enfant chéri du fief le plus conservateur de la musique autrichienne dès 69. Et puis il y eut le clash malheur. Malheur que Bernstein vénère et que Karajan a longtemps délaissé. Pourtant la symphonie numéro 9 l'obsède. Karajan, malgré le trouble profond et sincère qu'elle lui procure, échoue à émouvoir le public lorsqu'il l'enregistre. Souvenez-vous, Lenny l'avait dirigé une fois avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Or...
Mais après le concert, quelques semaines plus tard, Karajan enregistrait cette neuvième de Mahler et il a bien utilisé les partitions de Bernstein. Les partitions sont vraiment importantes pour les membres de l'orchestre parce qu'elles sont annotées, crescendo, décrescendo, ce que vous devez faire à ce moment-là, et ils avaient la partition de Bernstein. Je ne crois pas que ça ait amusé Bernstein. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il a dit que c'était impardonnable de la part de Karajan.
Thank you. Avec Mahler et Bruckner, Bernstein et Karajan se sont véritablement partagé le territoire. Léni a très peu joué de Bruckner.
C'est une petite histoire. Il adorait la 4e symphonie. Je pense qu'il l'a dirigée 3 fois. Moi, en tant qu'assistant, je lui demandais « Pourquoi tu ne veux pas diriger la 4e de Bruckner ?» Et il répondait « Mais je n'ai aucune raison de conduire la 4e symphonie de Bruckner. L'enregistrement de Karajan est parfait. » Et il n'a plus jamais donné de Bruckner jusqu'à ce que Karajan meure, mais il a quand même fait la 9e pour son dernier concert à Vienne.
Karajan meurt en juillet 89, en pleine répétition du bal masqué, non pas sur scène, mais chez lui, en réunion de production. Ce soir-là, Léni reçoit un télégramme.
La nouvelle de la mort de Karajan nous est arrivée. Léni était physiquement bouleversé. Il a dit « J'ai besoin d'être seul ». Il est entré dans sa suite. Il a fermé la porte en demandant de ne laisser entrer personne. Il était vraiment affecté.
Le lendemain, Léni a un concert à l'Opéra Bastille à Paris. Avant, il s'adresse au public.
Je voudrais très respectueusement vous prier d'être debout pour une minute de silence à la mémoire de notre cher collègue, le grand maître, Robert von Karajan.
Des histoires à propos du duel Bernstein-Karajan, il y en eut beaucoup. Léni a raconté à Jonathan Cott que Karajan l'avait supplié sur son lit de mort de prendre sa succession au Philharmonique de Berlin. Léni faisait du Léni et personne ne peut y croire. Mais une dernière histoire peut être un peu plus souriante. Elle se passe le 3 octobre 88. Karajan dirige au Musikverein. C'était son dernier concert à Vienne et cela, il ne le savait pas. Il était fatigué. À l'entracte, il avait même fallu l'accompagner pour rejoindre sa loge. On frappe à sa porte. Un autre vieux monsieur entre. C'est Léni, bien sûr. Que se sont-ils dit dans cette loge une fois la porte fermée ? Karajan l'a révélé. De quoi peuvent bien parler deux vieux messieurs? De leurs bobos? Mais nous avons quand même évoqué des projets. Nous partons en tournée avec l'orchestre de Vienne. C'est moi qui dirige la première moitié, lui la seconde. La semaine prochaine, je vous conterai un Leni intime entre foi et conviction humanitaire. C'était un été avec Bernstein, une émission d'Emmanuel Franc, et c'est Éric Lancien qui l'a réalisée. Françoise Monteil m'a aidé à la préparer. Bernard Loupias a œuvré aux traductions. Laurent Lederer était la voix de Leni et Marie le peintre était à la technique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.